Alors on reçoit Antoine de Superlude. Bonjour Antoine.
Bonjour à tous, bonjour.
Et un des jeux qui a marqué Superlude et son histoire, c'est Maître Renard, d'où la petite intro Renard Sacripant.
Magnifique musique que je ne connaissais pas. Je te la pique pour mon prochain,
c'est ça,
pour prochain salon.
Toujours sur les salons animation à fond avec
à fond.
Renard Sacripant.
Carrément.
D'accord, donc effectivement, Maître Renard qui a eu l'As d'or jeu enfant l'année dernière.
L'année dernière, oui.
Ouais, une belle récompense pour un jeu, je ne sais pas si vous l'attendiez ou pas.
Dès que j'ai vu le jeu à Cannes notamment, dès qu'il m'a été présenté à Cannes, j'ai senti son fort potentiel. Mais bon, je suis un jeune éditeur, donc pas forcément très expérimenté en matière de prix. Mais je savais que c'était un bon jeu. Et puis en le développant, en le faisant jouer dans les ludothèques, j'ai compris que, voilà, qu'il allait facilement remporter un vif intérêt auprès du public.
Ouais, c'est un jeu original pour le coup.
C'est un jeu original qui met en œuvre des éléments de jeu qui sont vraiment bien formatés pour ce type de prix, donc du tactile, de l'histoire,
du beau matériel. De ne pas voir.
Voilà, du beau matériel, de l'originalité, le masque. Voilà. Donc en effet, a priori, avec du recul, je me suis aperçu qu'il était potentiellement formaté pour avoir un prix. Mais bon, évidemment, ce n'est pas du tout l'objectif, même si on l'attend. Et j'avoue que quand j'ai appris que j'étais nominé, il y avait des rumeurs comme quoi potentiellement il pourrait être nominé, mais quand j'ai appris qu'il était nominé, évidemment, je n'espérais qu'une chose, qu'il est l'As d'or. Voilà.
Ouais, il y a le côté aussi, par contre, original. Justement, on essaie de faire un truc original pour qu'il soit éventuellement remarqué, mais le côté parfois trop original, il écarte parfois en se disant « Oh non, ça n'a pas touché beaucoup de monde. »
Ouais, c'est le gros problème du clivage autour des jeux originaux. Je crois qu'il faut oser quand même. Bon, après, ça reste original, mais ce n'est pas non plus un jeu rédhibitoire sur certains publics.
Pas des jeux où on ne voit pas ce qu'on fait, il n'y en a pas tant que ça.
Non, il n'y en a pas tant que ça, notamment des jeux à l'aveugle, quand on joue à plusieurs en même temps.
Voilà. Ouais.
Des jeux à l'aveugle, il faut chacun son tour chercher des objets dans une chaussette, ça existe. Mais le côté bataille de main, moi, c'est ce qui m'a tout de suite séduit, c'est que même pour des adultes, d'ailleurs, parce qu'on l'a testé entre adultes, on a commencé à la tester entre adultes, forcément, et tout de suite, on a beaucoup ri, et c'est là où je me suis dit, tiens, pour les enfants, c'est sûr, ça va marcher. Et pour les adultes, on s'amuse quand même. Et c'est le seul jeu enfant, vraiment enfant, que je fais. Mais si j'en fais d'autres, et d'ailleurs j'en ai signé un récemment, je veux absolument que ces jeux enfants soient jouables avec plaisir par les parents ou même que par des adultes. Et c'est ce qui s'est passé sur l'autre jeu que j'ai signé pour un public jeunesse.
D'accord, tu peux un peu rappeler les jeux de Superlude. Je sais qu'il y a La Nuit du Grand Poule.
Ouais, alors c'était mon deuxième jeu. Le premier jeu, c'était Tralala. Bon, un jeu de jeunesse qui m'a tout de suite séduit, qui m'a été présenté dans mon club de jeux de figurines et de jeux de rôle. Et à l'époque, je n'avais pas encore monté ma société. C'est un ami du club qui m'a présenté Tralala. On y a joué. Moi, les jeux de chansons, ça ne me parlait pas du tout. J'ai adoré cette première partie. Et puis voilà, dans la fougue de la jeunesse.
C'était avec des onomatopées. Il fallait refaire
certaines chansons. Voilà, en fait, c'était des bouts de phrases existantes, des bouts de phrases de chansons existantes. Et il fallait essayer de recomposer une chanson plus ou moins correcte. Alors, pas les chansons originales, mais recomposer quelque chose qui avait a priori du sens. Et il fallait l'interpréter sur l'air de ton choix. Et les autres votaient. Il y avait un système de prix à la The Voice. Et voilà, donc c'était mon premier jeu.
C'est vrai que c'est compliqué les jeux musicaux de manière générale,
voilà.
Comme les jeux sur le sport.
Exactement, voilà, il y a des
thèmes. Ça fait appel à la culture personnelle. Et donc,
alors justement, non.
Ouais.
Justement, c'est le seul jeu musical du marché qui ne fait absolument pas appel à la culture musicale. Il fait juste appel à de l'interprétation.
Un peu, ouais.
C'est-à-dire que tu peux très bien ne pas connaître d'où viennent les bouts de parole, ça n'a aucune importance en termes de mécanique. Il faut juste être capable de chanter à peu près bien. Et de composer avec des bouts de phrases un texte qui a un petit peu de sens. Voilà.
Ouais, mais des fois ça peut te rappeler un
alors
air,
tout à fait.
Ça peut faciliter, même si c'est pas le
central. Bien évidemment, ouais. Évidemment. Quelqu'un qui a déjà des airs musicaux en tête, qui connaît des rythmes et qui va, je sais pas, il connaît très bien un air d'Indochine sur le bout des doigts, il va très facilement pouvoir coller n'importe quel texte. Qui lui sera proposé. Il y a un draft, c'est un système de draft qui permet d'avoir des bouts de cartes. Forcément, il va mieux jouer que les autres, il va avoir plus de votes et il va forcément gagner. Bon, mais voilà, ça fait partie des écueils aussi du jeu. C'est mon premier jeu. Voilà,
après, c'est vrai que c'est des jeux qui peuvent parfois ne pas rencontrer de réponse chez les gamers, voire qui vont être un peu critiqués par les gamers sur les internets.
C'est exactement ça.
Par contre, ça peut toucher un public qui ne parle pas sur internet, qui ne va pas être là sur Facebook à dire ouais, machin,
tout
truc.
À fait.
Et qui va se faire peut-être conseiller le jeu en boutique. Et
voilà.
Ouais. Alors, est-ce que ça a réussi à trouver ce public?
Non, donc c'est ce type de jeu. Alors, je renie pas du tout mon premier jeu, mais c'est un jeu qu'aujourd'hui j'aurais peut-être développé différemment. Il y aurait eu moins de cartes, il y aurait eu peut-être un peu plus de gameplay dedans. Voilà, j'aurais peut-être ajouté des choses. Ce qui fait qu'il a trouvé un certain public, mais pas autant que je l'aurais espéré pour mon premier jeu, évidemment. Mais voilà, je le renie pas. Et voilà, le packaging était sommaire aussi. Aujourd'hui, forcément, il n'a pas du tout le packaging que je pourrais faire aujourd'hui. Donc voilà, il y a plusieurs éléments qui ont fait. Et puis ma marque n'était pas connue aussi, donc voilà, je commençais avec mon distributeur. Donc voilà, c'est un premier jeu qui aurait pu rencontrer succès. Il y a plein d'autres éditeurs qui font un premier jeu qui rencontre un succès immédiat. Ça n'a pas été le cas, mais je suis quand même très content de l'avoir fait et ça m'a permis ensuite de faire les autres. Donc les autres jeux, La Nuit du Grand Poulpe, par le même auteur que Tralala. Là encore un super coup de cœur, un jeu qui a très bien démarré, mais qui là encore souffrait d'un tout petit problème de promesse. C'était un jeu très bien illustré, enfin j'ose croire qu'il est très bien illustré, avec un thème fort, une grosse boîte avec du beau matériel, mais une mécanique très agréable, très très chouette mécanique de guessing, une pure mécanique de guessing, mais trop simple par rapport à la promesse. Grosse boîte, un jeu aux alentours de 25€, un thème proche de Cthulhu, donc du coup acheté par des gamers qui forcément n'est pas le public cible c'est un public familial. Donc c'est un jeu qui marche très très bien à 10-11 ans. Moi dans les écoles ça marche très très bien en périscolaire ou en soirée jeu dans les écoles ou en famille avec des papas un peu geeks qui vont voir toutes les petites allusions un peu geeks du jeu et le reste de la famille ou des mamans geeks hein, bien sûr, il y a plein de mamans geeks aussi bien sûr. Voilà, et donc c'est un jeu qui a correctement fonctionné. Et puis après donc il y a eu Kobayakawa, un jeu japonais, ouais. Je suis très porté sur la culture japonaise, donc c'est un jeu d'origine japonaise édité au Japon et donc j'ai eu la licence pour le développer dans le monde entier. Donc un très chouette jeu de 15 cartes, jeu minimaliste, c'est pas du poker, c'est plutôt du blackjack, mais c'est un peu facile de dire que c'est un poker japonais. Il y a des mises, il y a des pièces, voilà, donc un très très chouette jeu qui marche, qui
il
continue à bien marcher.
Il avait eu des pièces de luxe hein,
alors il y a
des
eu
des pièces en métal,
voilà, il y a eu des places en métal pendant plus d'un an. C'est des pièces qu'on pouvait gagner en tournoi, en événement, en salon, en boutique. Et puis là, récemment, j'ai sorti un pack un lot de pièces, de 32 pièces, qui permet de compléter le jeu de base.
Ce côté matériel est vachement important aujourd'hui, on l'a vu, on le voit dans les jeux récents.
C'est hyper important, notamment pour un jeu où il n'y a que 15 cartes. Il faut que l'expérience de jeu, il faut apporter quelque chose à l'expérience de jeu. Au-delà de la mécanique de jeu qui est hyper subtile, peut-être trop justement, et ce qui fait que cette grande subtilité fait qu'on peut penser que c'est du hasard, mais quand on fait une partie avec 6 personnes qui calculent bien, c'est hyper tendu et c'est très 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 subtil. Donc voilà, rajouter des pièces, ça rajoute de l'ambiance, et sinon vous pouvez jouer avec des pièces de 50 centimes, c'est très très bien aussi.
Et après il y a donc Kenjin,
il y a eu Kenjin, donc un jeu Nicolas Sato, qui est aussi l'auteur de Lutèce, qui est un autre de mes jeux.
Donc toujours avec un univers
japonisant, ouais. Voilà, donc Kenjin japonisant, des samouraïs, un jeu d'affrontement.
C'est aussi un jeu assez particulier dans les sensations. Ouais.
Voilà. C'est un jeu où il n'y a pas de hasard du tout, puisqu'on a exactement les mêmes armées, où on peut jouer avec un adversaire à droite, un adversaire à gauche, quand on joue à 3 ou à 4. À 4, on joue en collaboration avec l'adversaire qui est en face de soi. Et on joue,
qui est du coup un partenaire.
Voilà, qui est du coup un partenaire, c'est plus un adversaire. Et c'est un jeu assez rapide, avec aucun hasard en fait.
Assez quand même, là pour le coup, les gamers, je pense, s'y retrouvent plus.
Oui, exactement. C'est un jeu qui a très bien marché en tournoi. On a fait des beaux tournois de Kenjin. Et c'est un jeu plutôt gamer, stratégique, avec du guessing, du bluff, un peu de calcul. Donc là, on a monté déjà d'un cran. Et puis après, il y a eu donc Maître Renard.
Ouais.
Donc là, mon premier jeu enfant, Coup de foudre.
De
Fred Hervimania. Donc lui, c'est son premier jeu édité. Moi, c'est mon quatrième jeu édité.
Ouais, je crois, du coup,
ouais. Asdor. Donc lui, Asdor, avec son premier jeu édité, il est vraiment tout fou. Hyper content. Donc c'était vraiment une magnifique aventure qui se poursuit. Là, le jeu est plus en boutique actuellement. Petite rupture. Il ressort mi-août. Et puis Lutèce, donc un autre jeu de Nicolas Sato. Donc là, on est sur un jeu plus Seven Wonders, un jeu de majorité avec un peu plus de réflexion, des jeux d'une heure. Illustré par Biboun, encore dans un univers gallo-romain un peu décalé.
Il y a de l'enchère un petit peu.
Avec de l'enchère, des pots de vin.
C'est de l'enchère douce, entre guillemets.
C'est de l'enchère douce. Ouais.
On récupère nos mises perdues, entre guillemets.
Ouais. Exactement. Il y a tout un système. Il y a plusieurs systèmes qui font que les déçus, ceux qui ne peuvent pas, soit qui perdent leurs enchères, soit qui n'arrivent pas à acquérir certaines cartes, soient rétribués, récompensés par de la trésorerie. Et donc, du coup, reste dans le jeu. Donc, on reste dans le jeu jusqu'à la fin. Quelqu'un qui perd beaucoup reste dans le jeu jusqu'à la fin. Alors, forcément, il ne va pas faire de gros scores, mais il peut toujours jouer.
Ouais, et puis pareil aussi, un côté bluff assez présent avec alors ça c'est intéressant, mais alors si moi je trouve que c'est le côté guessing qu'il y avait déjà donc dans la
vie
du Grand Poulpe d'une certaine manière.
Voilà,
c'est intéressant, mais ça rapporte tant.
Et dans Kenjin aussi, tout à fait, c'est exactement ça. Après, ce côté bluff, justement, je me suis aperçu que par goût personnel, enfin ce côté guessing, par goût personnel, il s'était retrouvé dans tous mes jeux. Et aujourd'hui, j'essaye justement qu'il n'y ait plus du tout de guessing dans mes jeux. Alors ce que je vous dis c'est faux parce qu'au final dans mes deux prochains jeux il y en a un petit peu, mais
ça c'était avant.
Voilà, de toute façon du guessing il y en a dans beaucoup de jeux, c'est une mécanique assez récurrente, mais je fais attention aujourd'hui à ce que le jeu ne soit pas que centré là-dessus. J'aime beaucoup cette mécanique là, mais voilà, ne faut pas en faire trop non plus, ni tout le temps.
Donc l'UTES, c'est vrai que depuis, on n'avait pas eu trop de nouvelles sur qu'est-ce qui se préparait. L'UTES, c'était 2016, hein, c'est ça ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces 18, on va dire ces deux dernières années, non, ces 18 derniers mois, j'étais associé avec Ori Games. Donc on avait un deal de partenariat. Et donc, Superlude a édité des jeux qui étaient préparés par Ori Games, qui à l'époque ne souhaitaient pas être éditeurs de jeux de société puisqu'ils étaient packagers. Moi, Ori Games, c'était mon packager. Donc,
Ori Games qui travaille avec pas mal d'éditeurs.
Voilà, c'est ça. Donc ils ne voulaient pas être éditeurs. On avait une très bonne relation. Je bossais beaucoup avec eux. Et à un moment donné, s'est posé la question de renforcer cette relation. Et donc le deal, c'était que Superlune devienne une marque d'Ori Games et que je m'occupe, en tant que directeur éditorial, d'éditer les jeux Superlude, dont des jeux qui avaient déjà été conçus par Ori Games. Et c'est ainsi qu'on a sorti sous la marque Superlude Croa, le célèbre Croa, Alien Wars et Sabordage. Okay, donc en fait, ces 18 derniers mois, j'ai sorti Croa, Alien Wars et Sabordage.
Et c'est vrai qu'au niveau du public, on a vu une espèce d'absence, alors qu'en fait, effectivement, il y avait ces projets-là.
Bien sûr.
Mais comme ce n'était pas des jeux qui étaient chez toi au début, etc.
Voilà, il y a eu un petit flou. Et puis ça, c'était déjà, moi, j'ai arrêté de travailler en collaboration, en tout cas de ce type-là, avec Ori Games en juillet 2016.
D'accord.
Donc depuis juillet 2016, Superlude était un petit peu en veille, à la fois pour des raisons professionnelles et des raisons personnelles. Aujourd'hui, Superlude revient. Enfin, Superlude n'est jamais parti, mais Superlude revient de plus belle. Voilà, Superlude se réveille. Voilà, je vais délaisser un petit peu mes activités d'éditeur pour me consacrer à d'autres choses plus urgentes. Et voilà, aujourd'hui, du coup, je reviens. Je suis de nouveau sur les salons en personne, parce qu'à une époque, j'envoyais beaucoup d'animateurs et j'avais envie de retisser ce lien avec le public. Et puis, très, très honnêtement, aussi remontrer que Superlude existait toujours, parce que j'ai eu des retours étonnants de gens qui pensaient que Superlude n'existait plus. Et je le comprends, hein, je le comprends quand la présence baisse. Voilà, il n'y a pas tant d'éditeurs que ça, les gens sont très observateurs. Il y avait des revendeurs qui ne trouvaient plus mes jeux parce qu'ils étaient épuisés, notamment Maître Renard. Donc, ils se demandaient, tiens, est-ce que Superlude existe toujours ? Voilà. J'avais pas de stand à Cannes, parce que j'avais pas de nouveautés à présenter. Donc, du coup, j'ai pas jugé utile forcément d'avoir un stand. C'était peut-être une erreur, voilà. Mais en même temps, j'ai beaucoup travaillé sur Cannes, notamment pour trouver des nouveaux projets. Donc, j'étais présent, mais je travaillais en secret dans mon appartement.
En sous-marin
dans mon appartement. Et voilà. Donc, là, aujourd'hui, les nouveautés, quelles sont-elles ? On a donc Shawai et Kimono, qui sont deux jeux qui sont prêts déjà depuis quelques temps. Mais comme je vous l'ai expliqué, voilà, Superlude a été un peu en sommeil, en tout cas pour ses jeux propres. Donc c'est des jeux qui sont prêts déjà depuis quelques temps, hein, puis j'en parle déjà depuis au moins un an et demi. Et là, ils sont enfin terminés.
Et donc là, tu les montres sur le salon. Alors vu sur le salon, il y a Lutèce quand même qui est toujours
démonstration. Alors Lutèce, je le montre toujours. Kobayakawa, je le montre toujours parce que c'est des jeux qui correspondent à un certain public qui est assez présent au salon. Ouais. Donc Lutèce, un jeu un peu plus costaud que les autres, qui dure une heure, on peut jouer à 5 joueurs, il est bien illustré. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai toujours beaucoup de plaisir à montrer. Et à titre personnel, c'est un jeu que j'adore jouer. Et Kobayakawa, qui s'adapte très bien au salon. Voilà, un jeu très simple, minimaliste. On joue à 6, on s'amuse bien, c'est tendu, c'est rapide. Une espèce de jeu de bar. Voilà. Donc, c'est vraiment des jeux que je sors souvent. Et Maître Renard, là, je ne le présente pas parce que comme il est épuisé en boutique...
Sinon, ça peut créer de la frustration.
Voilà, ça crée des frustrations. Mais je vais commencer à le ressortir. Là, la prod... C'est des jeux qui... Maître Renard sera de nouveau en boutique mi-août. Hein, voilà. En même temps que mes deux nouveautés, donc Shawai et Kimono. Et donc
ils sortent les deux en même temps du coup ?
Voilà, je sors, je vais ressortir les trois en même temps. Et donc Kimono et Shawai sortent en même temps, alors peut-être avec une ou deux semaines de décalage, ça sera en tout cas avant septembre. Et donc là, je les ai présentés déjà à Montpellier il y a quelques temps, au Festival de Montpellier. Et là, je les présente au Festival des Brésils et des Jeux à Strasbourg. Donc on a Shawai, qui est un jeu de Bruno Feduti, illustré par Paul Maffaillon. C'est un jeu familial qui ressemble un petit peu à Stupid Vautour, mais avec quelques éléments de gameplay supplémentaires qui, à mon sens, l'enrichissent. Et là, il marche très très bien. Je suis très très content. À Montpellier, il a très bien marché aussi. Et là, j'ai vu beaucoup de groupes de 6 joueurs qui rejouaient. Et ça, évidemment, c'est le signe du jeu qui plaît. Donc, ils commençaient une partie, ils rejouaient une deuxième partie, ils en parlaient autour d'eux. Donc voilà, j'ai bon espoir pour ce jeu-là. Puis c'est un jeu de Bruno Feduti, donc ça attire toujours un petit peu.
Est-ce qu'il y a encore une référence japonaise avec Shawai, Kawai ou...
Alors oui, toujours un petit peu. Alors Shawai, c'est en référence à Hawaï. Donc il y a pas mal de jeux de mots dans le jeu. Voilà, on est des Shawaïens, donc c'est des chats pêcheurs. Dans les îles Shawai, on est des Shawaïens. On va aller pêcher des chardines, C'est dans une ambiance un peu voilà, hawaïenne, maori. Donc on n'a pas des kiti, on n'a pas des tiki, mais on a des kiti, voilà, ce genre de choses. Et en effet, le mot shawaï.
Travail de développement sur les blagues.
Ouais, voilà, je suis expert en blagues. Et non, mais le wording est vachement important, hein, dans les jeux. Un de mes plaisirs quand je développe un jeu, c'est de développer un univers derrière. Donc l'univers, il passe aussi par les mots. Et voilà, donc là, je me suis fait un peu plaisir. Dans la nuit du grand poulpe aussi, il y avait des choses comme ça. J'ai même pensé, d'ailleurs, j'ai pas encore trouvé le jeu, mais j'aimerais faire un jeu qui serait le pendant de Shawaï et qui s'appellerait Chien de mer, donc Sea Dogs, où en effet, des chiens pirates viendraient attaquer ou en tout cas seraient en relation avec les îles Shawaï. Et donc, voilà, il y aurait des relations chien et chat. Voilà. Et pourquoi D'accord. pas des indigènes cannibales souris. Pourquoi
non,
pas.
Mais les méchants, c'est toujours les chats, normalement.
Non, les méchants, c'est les chiens. Les chats, c'est gentil, c'est mignon.
Et les souris
Et les souris, c'est des Suisses. C'est fourbe, ils sont neutres. C'est fourbe. Voilà, il y a du fromage, donc c'est des Suisses. Voilà.
D'accord.
Donc ça, c'est Shawaï. Donc c'est un jeu de 3 à 6 joueurs à partir de 6-7 ans. Hein. Et Kimono. Donc Kimono, c'est un jeu de Hinata Origuchi. C'est un jeu japonais qui est sorti au Japon sous le nom de Color of Kasane. C'est un jeu que j'ai découvert à Essen il y a 2 ans. Qui m'a tout de suite vraiment beaucoup plu. C'est un jeu de combinaisons et de cartes. On joue tous des jeunes filles. Voilà, il n'y a pas de gros guerriers, il n'y a pas de sorciers, il n'y a pas de trucs comme ça. On est tous des jolies jeunes filles. On est finaliste d'un grand concours international de kimono et on va passer devant l'empereur et devant la cour, et donc le jury, pour essayer de confectionner des kimonos en superposant des couches de tissu à la mode. Et dans les styles qui sont préconisés à la cour.
On connaissait les jeux où on enlève justement des couches de vêtements avec les japonais. Là,
et voilà. Vrai. Et non, là on rajoute. Voilà. En fait,
là on couvre au moins.
On couvre parce que le jeu s'inspire des kimonos de la noblesse japonaise médiévale, et même encore maintenant ils se portent, qui sont des kimonos à 12 couches. On met 12 couches de tissu. Et là le jeu reprend exactement ce principe-là, puisque au mieux on va poser 12 couches de tissu sur son kimono. Si on y arrive, c'est très bien, on peut en poser moins si on est un peu moins bon, mais voilà, donc ça touche beaucoup l'univers. Il y a toujours une corrélation assez forte avec l'univers, donc c'est un jeu d'origine japonaise, mais j'ai revisité un peu le thème puisque je voulais quelque chose d'un peu moins suranné, d'un peu moins typé japonais justement. Et d'ailleurs, dans le boarding du jeu, dans le thème du jeu, on n'est pas forcément au Japon. Les jeunes filles que tu incarnes ne sont pas forcément japonaises. Il y a une black, il y a une punk, il y a une rookie qui ressemble un peu à Candy avec des tatouages. Donc on est dans un univers un peu décalé, moderne. Il n'y a pas vraiment d'époque, on n'est pas forcément dans une époque médiévale. C'est illustré par Nayad, qui s'est surpassé à la fois sur les jeunes filles et notamment sur les motifs des tissus. Tant et si bien que j'espère faire, mais ce n'est pas du tout sûr, éditer des coupons de tissus qui correspondent aux différents tissus. Alors après, ça peut être des goodies, ça peut être autre chose.
Parce que là, ce sera donc des cartes qui serviront à se recouvrir les unes les autres.
Voilà, c'est ça. Ah, okay. Donc là, le jeu, c'est des cartes qu'on va acquérir dans un marché. Pour réaliser des combinaisons qui vous permettent de rapporter des points selon certaines contraintes. La particularité du jeu, c'est que lorsque tu prends une carte dans le marché, tu la mets dans ta main et ta main ne doit jamais être mélangée. Tu ne peux pas jouer avec tes cartes. Que lorsque tu prends les cartes, tu les mets dans ta main dans l'ordre dans lequel elles arrivent. Et tant que tu n'as pas posé de combinaison, tes cartes doivent impérativement rester dans l'ordre d'arrivée de ta main. Ce qui fait que comme tu es obligé de prendre une carte avant de jouer une combinaison, si malheureusement dans le marché tu as mal anticipé et que tu es obligé de prendre une carte qui bloque ta combinaison, puisque de la même manière que tu les prends toujours dans le même ordre, quand tu poses ta combinaison, tu dois les prendre telles qu'elles sont arrivées dans ta main. Tu n'as pas le droit de les mélanger. Voilà, donc il y a cette double contrainte qui fait que tu dois vraiment anticiper et ne jamais être bloqué, ne jamais avoir une main bloquée. Donc c'est un jeu un peu calculatoire, qui reste quand même léger, accessible. Tout à l'heure, il y a une petite fille de 10 ans qui a battu ses deux parents, elle était ravie. En plus, elle avait fait un très joli kimono, c'était très bien assorti, elle était ravie. Mais voilà, c'est plutôt un jeu un peu calculatoire.
D'accord, donc ça, c'est prévu pour cet été.
Voilà, mi-août, là, 4 semaines de fabrication et 6 semaines de transport, si tout se passe bien. Donc ça arrive mi-août.
Et donc là, pour communiquer justement, pour dire, on est toujours là, et la preuve, il y a ça qui arrive. Il y a les festivals, tu as parlé de Montpellier, tu as parlé d'ici, il y aura sûrement peut-être Paris Ludique.
Exactement, Paris Ludique, ensuite il y aura Orléans-Joux, il y aura Ludimania, il y aura évidemment Essen. Et puis là, je vais commencer à tourner, maintenant que je connais la date de sortie des jeux, je vais commencer à tourner dans les boutiques ou dans les associations pour présenter ces deux jeux-là jusqu'à leur sortie.
Il y avait aussi les boutiques qui te questionnaient sur cette absence-là ?
Alors oui, certaines boutiques que je rencontrais m'interrogeaient un peu, interrogeaient aussi mon distributeur.
Ouais, bien sûr, ouais. T'es toujours chez Yellow du coup ?
Alors, non.
Non, t'as changé de distributeur ?
Voilà, j'ai changé de distributeur pour Shawaï et pour Kimono, qui vont être distribués par MAD, qui est un nouveau distributeur dans le monde du jeu de société, mais qui distribue déjà les jeux de Don't Panic Games et les jeux de...
Ouais, j'ai croisé tout à l'heure. Et
de nos amis qui
plusieurs
font
éditeurs.
Des éditions volumiques, pardon.
Des éditions volumiques, d'accord, qui ont fait World of Heroes et d'autres choses.
Voilà, exactement. Et là, aujourd'hui, MAD se développe bien. Il y a de nombreux éditeurs qui les rejoignent, à juste titre, parce que leur offre, leur esprit, leur offre et aussi leur réseau est vraiment très intéressant, puisque c'est une société qui distribue aussi de l'animé manga et du coup est très implantée dans les librairies.
Ah oui,
et
c'est eux aussi qui distribuent Yoka.
Exactement, voilà, ouais, Yoka by Tsume, ils font aussi Yoka, et ils font aussi beaucoup de DVD, par exemple le DVD de Ghost in the Shell, qui a été numéro 1 des ventes.
L'anime. Le bon, quoi.
Le film n'est pas si mauvais, mais bon.
Scarlett Johansson, quoi.
Voilà, il est un peu moins bon. Ils distribuent aussi ce jeu-là, ce qui fait que ce DVD-là, ce qui fait qu'ils sont très bien implantés dans les librairies manga aussi. Donc moi, pour mes jeux à tendance japonaise, c'est très intéressant. Et puis, ils sont très bien distribués en grande surface spécialisée. En hyperspé, ils sont correctement implantés, mais surtout en grande surface P, les FNAC, voilà. Et puis, ils ont un bon esprit, donc je suis très content de les rejoindre pour mes nouveautés. Pour ce qui est du reste du catalogue, c'est toujours chez Yellow. Une particularité pour Maître Renard qui sera qui ne sera plus distribué chez Yellow, mais d'accord, qui ne sera pas forcément édité sous la marque Superlude. Voilà. Donc Maître Renard revient, mais attendez-vous à avoir un Maître Renard qui ne portera pas la marque Superlude.
Il y aura toujours le masque.
Ça sera exactement le même jeu. Ça ne change absolument rien au jeu.
Ça sera le même nom.
Maître Renard, c'est juste, il n'y a plus Superlude sur la boîte. C'est une autre marque qui s'appelle Goupil. Et voilà, c'est une autre marque qui appartient à un autre éditeur qui va donc éditer Maître Renard.
Et quand c'est comme ça, tu cèdes la marque ou bien c'est juste que tu es en relation avec l'autre
Alors, il faut céder la marque. Ouais. Le jeu n'est plus un jeu Superlude.
D'accord, voilà. Ok.
Superlude a contribué au lancement du jeu, a contribué au développement du jeu.
À l'obtention de l'As d'Or par le jeu.
Pardon ?
À l'obtention de l'As d'Or par le jeu.
Voilà, exactement. A obtenu un As d'Or par le jeu, ce qui a permis de valoriser le jeu, bien sûr, et du coup forcément d'attirer des partenaires éditeurs qui auraient bien aimé avoir ce jeu dans leur catalogue. Moi, ça m'a arrangé pour de nombreuses raisons, à la fois des raisons... en tout cas, le jeu va continuer à vivre et à bien vivre. Pas chez Superlude, mais je continuerai quand même à être présent en tant que studio de développement, parce qu'au final, c'est Superlude qui a développé le jeu, donc je reste toujours crédité comme studio de développement, mais ce jeu ne m'appartient plus et n'est plus distribué, enfin en tout cas n'est plus édité par Superlude, mais sera distribué par MAD, puisque c'est un autre éditeur de MAD qui a acquis les droits de Maître Renard.
Et alors, on sait qu'en Allemagne, par exemple, Mathieu Despnous ne peut pas mettre le logo Spiel sur le Hanabi parce que c'est dans ce packaging particulier. Est-ce que là, ils auront le droit de mettre quand même le logo Asdor, enfant ?
Alors, j'avoue que je ne me suis pas posé cette question-là. Pour l'instant, oui, parce que pour l'instant, les fichiers que je leur ai, transmis sont des fichiers qui ont le logo Asdor. Je vois pas pourquoi je vais demander. Je me pose la question maintenant.
D'accord.
Donc je vais demander au Festival de Cannes si je peux toujours poser ce logo. Après, c'est un peu différent parce que je crois que le Spiel.
Ouais,
malheureusement, je ne connais pas du tout comment.
Il faut rémunérer.
Il faut rémunérer. Ouais. Voilà. Il faut rémunérer. Ouais. Donc je pense qu'il y a un aspect contractuel qui est très différent et que l'As d'Or est beaucoup plus ouvert à ce type de. Voilà. Je vois pas pourquoi l'As d'Or refuserait qu'un autre éditeur qui récupère la licence Maître Renard ne puisse mettre le logo Asdor, au contraire.
Y avait aussi une histoire à Essen avec les t-shirts là, qui avaient fait du buzz à l'époque, qui a peut-être contribué à faire connaître la marque Superlude, mine de rien.
Superlude. Alors, oui, je vois que vous êtes bien informé, c'est terrible.
Ouais. Et alors, honte, à ce niveau-là,
la honte sur moi.
Peut-être la honte sur les puritains allemands aussi. Tu
ouais.
vois.
Bon, ouais. ils ont surtout rigolé, quoi. C'est vrai que...
Ouais, j'imagine, ouais.
Alors, ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne le savent pas, Superlude... En allemand, ça veut dire
super prostitué.
Super macro, en fait. C'est un macro.
Macro, c'est le
voilà,
c'est le
un macro. Superlude, c'est super macro. C'est un pimp, quoi.
C'est pas macro le poisson. Hein.
C'est macro, ouais. Voilà, super macro. Et donc, du coup, tout le monde a voulu avoir, tous les Allemands qui avaient compris la blague le voulaient. Voulait le t-shirt, donc il voulait acheter des t-shirts des animateurs.
En fait, c'est pour ça que tu as fait une petite pause, c'est parce que tu t'es reconverti dans la production de t-shirts.
Alors, mais je me suis même dit, voilà, il va falloir me faire des jeux orientés macro, des jeux un peu trash, quoi. Et ça peut me correspondre bien. Je fais des jeux Maître Renard, mais l'éditeur de Maître Renard ne peut pas non plus faire un jeu qui parle de prostituées, de macro, et voilà. Mais Ceci dit, ça me plairait bien de créer une gamme éditoriale que pour ça, ça pourrait être rigolo.
En Alsace, le dialecte alsacien est assez proche de l'allemand. Personne ne t'a harcelé pour avoir un t-shirt. Là,
non, pour l'instant, non. C'est vrai que Superloader aurait pu être... ouais, je ne sais pas comment on dit macro en alsacien. Il y a des gens qui parlent allemand ici. Hein, donc, ouais. Et alors, pour la petite histoire, pour encore enfoncer le clou, j'ai vraiment pas de chance, en tout cas avec ce nom-là. Aux États-Unis, Lewd... Super Lewd. Lewd, c'est un lubrique.
D'accord.
Dans l'argot américain, Lewd, ça veut dire lubrique. Ça ne s'écrit pas pareil, mais ça veut dire lubrique. Et ce qui fait qu'aux États-Unis, bah, c'est Super Lubrique. Et en Allemagne, c'est Super Macro. Donc voilà, je le dis à l'antenne. Si ça peut être coupé, ce serait très bien, parce que je porte ces noms-là comme une espèce de boulet là, qui me traîne.
Mais tu t'es pas. Du coup, ça.
Si. Ouais. J'anticipe ta question. Est-ce que je change de nom pour l'international? C'est
ouais.
ça ta question?
Ouais, c'est ça. Bah,
c'est exactement ça. Donc Aison, en fait, on a retiré les. On a retiré alors les t-shirts. J'ai retiré les t-shirts. Je suis allé acheter en.
Il préférait avoir quelqu'un nu et torse
nu. Non, ouais, exactement, ouais. Voilà, tout à fait. Non, je suis allé chez H&M allemand acheter des t-shirts bleus à peu près de la même couleur. J'ai retiré les t-shirts Superloader, j'ai mis des t-shirts bleus et j'ai retiré les frontons, les chapiteaux, enfin tout ce qui était retirable et qui portait la marque Superloader, je l'ai retiré. Alors forcément, ça n'a absolument pas nuit aux contacts internationaux. Qui sont quand même l'essence un peu de la présence des éditeurs sur ce salon-là. Donc ça m'a absolument pas... J'ai eu aucune remarque d'éditeurs partenaires étrangers sur le nom. Voilà, aucun Allemand. Heidelberger a édité en allemand Maître Renard et Kobayakawa avec le mot Superloader dessus. Ça n'a choqué personne. Et Heidelberger...
C'est juste les grivois allemands.
Exactement. Ouais. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Donc je me suis quand même posé la question pour, à l'international, éditer mes jeux, en tout cas présenter mes jeux sous une autre marque. Au final, ça ne sert à rien. Voilà, ça pose des problèmes de communication. Les éditeurs, si les éditeurs ne veulent pas, à l'étranger, mettre le mot Superloader sur la boîte, au final, je m'en fiche un peu. Pour l'instant, c'est peut-être une erreur. Ça pose peut-être un problème de communication de marque à l'étranger. Voilà, aujourd'hui, je préfère que mes jeux sortent avec le mot Superloader ou pas dessus. C'est pas très, très, très grave.
Ouais, puis après, il y a le logo de toute façon aussi.
Il y a le logo de l'autre éditeur, bien sûr, qui est,
ouais.
qui est
non,
plus...
Mais le,
même
le
juste
logo
le logo de Superloader, Superloader ouais. tout seul, sans le...
Ah oui, alors uniquement prendre le logo, ouais. alors tout à fait, ça c'était une autre solution. Donc j'ai préparé juste l'espèce de petite boule d'énergie, là, qui pourrait être en effet apposée, un peu comme un tampon, avec juste le S à l'intérieur. Ouais. J'ai aussi ça, sur ma page Facebook, c'est ça en fait, c'est juste ce petit icône-là. Ça pourrait aller, ça pourrait correspondre. Bon, pour l'instant, j'ai...
À l'image du Superman, où il y a juste le S dans le logo.
Voilà, exactement.
Et on le reconnaît.
Voilà. L'origine de Superloader, d'ailleurs, c'est un peu ça, hein, c'est ma passion. Moi, je suis un ancien libraire BD. J'ai été responsable de librairie BD du groupe Album pendant 7 ans. Je suis fan de comics, de toutes les BD en règle générale, mais vraiment de comics. Et du coup, le mot super est venu assez naturellement. Alors, c'est un peu galvaudé. Après coup, je me dis, voilà, c'est un peu facile. Bon, OK. Pourtant, moi qui adore créer des noms, voilà. Et Lude, c'est l'origine latine. Et ce qui est étonnant, c'est que tout le monde ne connaît pas cette origine latine. Et les gens se demandent pourquoi il y a Lude, ça fait quoi ? C'est pour la libellule. Alors, et c'est rigolo parce que les gens, en fait, confondent avec libellude et pensent que le Lude correspond à la libellule. Et voilà, c'est assez confusant dans l'esprit des gens. Donc, le super joueur, le super ludique, tout le monde ne le comprend pas forcément.
D'accord.
Mais voilà, c'est ça, c'est la double... Moi, je suis passionné aussi de mythologie grecque et romaine, d'histoire romaine, aussi j'aime bien les auteurs classiques latins, et fan de super-héros. Donc entre Superman et Ovid, il y a Superloader.
Ok, et sinon le festival se passe bien au niveau des retours?
Alors, bien sûr, parce que là, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un super festival. Bon, déjà, c'est organisé par une super équipe. J'étais très content aussi de répondre à l'appel de Philibert.
Qui était déjà là il y a 2 ans. Hein.
Alors, il y a 2 ans, j'avais envoyé une équipe.
Ça.
Il y avait Superloader qui était présent, mais moi, pas à titre personnel. Je suis déjà venu chez Philibert à plusieurs reprises pour présenter mes jeux. Il y a 2 ans, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Cette fois-ci, je le fais et je suis très, très, très content. Déjà, le soleil est là, c'est cool. Bon, pas hier, il a plu, mais c'est pas très, très grave.
Du coup, ça a ramené du gens dans les tentes, c'est ce qu'on nous a dit.
Exactement, ça a ramené du monde. Là, il y a beaucoup de monde. Je suis très, très content de voir ça. Là, à vue de nez, j'imagine qu'on doit être au moins 3000 visiteurs jour. Donc, 6000 visiteurs sur une deuxième édition d'un festival, c'est très, très bien. C'est très bien organisé. J'ai des animateurs qui sont dédiés à mes tables, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les festivals. Donc, des bénévoles animateurs que je forme en arrivant et qui sont très, très bons. Vraiment, vraiment très bien. L'organisation est impec. Le lieu est superbe. Pas trop chaud, pas trop froid, il y a de la place, c'est très très bien calibré. Je pense que l'année prochaine, il va falloir pousser les murs parce qu'il y aura plus de monde que ça, c'est évident. Ou en tout cas rajouter des tentes, mais je suis très très content de ce festival, bien sûr.
Et les bretzels, est-ce que c'est bon ?
Alors moi je suis un gros fan de bretzels, j'ai beaucoup, en étant jeune, ado, j'ai beaucoup voyagé en Autriche et en Allemagne. Et, donc,
est-ce que tu es aussi fan du yodel que du bretzel ?
Non, un peu moins, parce qu'en Autriche, les Yodels, je les ai bien supportés, notamment au resto, quand tu as une troupe de chanteurs traditionnels à côté de toi, voilà. Mais j'aime beaucoup les bretzels, vraiment, c'est pas juste un gag, j'aime beaucoup les bretzels, et du coup, j'en ai ramené pour ce soir, voilà. Et les kouglof aussi sont très bons, j'ai pris un magnifique kouglof salé ce matin, c'était délicieux.
Ok, ça roule, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur Superlude, les choses à venir
Non, là, évidemment, il y a d'autres jeux signés, donc là, l'avenir proche, c'est Kimono et Shawai, bien sûr.
Des choses pour 2018 peut-être.
Voilà, pour 2018, donc il y aura un jeu, a priori un jeu jeunesse pour 2018 pour Cannes, qui sortira à Cannes, qui sera déjà présenté à Essen dans une version prototype plus ou moins avancée pour le marché étranger, mais qui sera en tout cas de sortie à Cannes en 2018. Ensuite, un autre jeu qui devrait se caler pour Paris Ludique de 2018 ou pour Essen de 2018. Éventuellement, si je peux sortir un troisième jeu, ça serait bien, mais soyons prudents. À une époque, j'étais un peu tout feu tout flamme, j'annonçais plein de sorties et j'en ai fait pas la moitié. Voilà, c'est la fougue de la jeunesse, hein, même si je suis plus tout jeune, mais en tout cas, ma maison d'édition était jeune et mon expérience aussi. Aujourd'hui, je pense que deux jeux par an, c'est plus prudent, vu le marché qui est saturé, vu le temps qu'il faut pour développer un jeu. Et de plus en plus, les jeux doivent être non seulement bons, mais très bons. Donc je pense que pour sortir des très bons jeux, il faut prendre le temps. Enfin, je pense, tout le monde le pense, hein, c'est un peu une tarte à la crème de dire ça, mais... En tout cas, je l'ai bien compris et du coup, je ne vais, je pense, ne sortir que deux jeux en 2018.
Bah, merci de ta participation.
Merci beaucoup à vous. C'est toujours un plaisir de répondre à vos questions.
Bonne fin de festival.
Merci beaucoup. Je retourne à mes tables. Il y a du monde.
Ça roule.
À bientôt. Au revoir. Bonne journée.